Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, nous aimons la chanson française. Bistånd klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre. Cette phrase est notre devise, notre devise. Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, d'accord pour les chanteurs, poètes. Bistånd klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie, tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie, philosophie. Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack.
Bonsoir. Notre émission de ce jour est consacrée à Madame Odile Schadbeck, et plus exactement à son activité de résistante au temps de cette époque où elle portait son nom de jeune fille, Odile Monin. Nous parcourrons avec elle son itinéraire de l'enfance jusqu'à ce jour, où elle continue à militer. Cette émission est aussi une occasion de rendre hommage aux femmes résistantes, dont les faits et les actions sont souvent moins évoqués que celles de leurs camarades hommes. Je vous propose de la retrouver.
Le rouge après le noir.
On aura nos dimanches.
On ira voir la mer
et nos frères de silence
et la paix sur la terre.
Mais si la guerre éclate sous nos
oh! Madame Odile Schoenbeck, bonjour. Je vous remercie de me recevoir pour Radio Canut, pour parler de votre témoignage, de votre expérience dans la résistance, mais on va peut-être partir encore de plus tôt, votre enfance, vos parents, avant d'en venir à la période de la guerre.
Voilà, ben monsieur, c'est moi qui vous remercie d'avoir fait le déplacement, d'être venu jusqu'à moi. Voilà, et je suis à votre écoute pour vous répondre.
Donc, vos parents, qui étaient-ils? Où êtes-vous né?
Alors, moi, je suis née à Villeurbanne. Voilà.
Ils étaient originaires de Villeurbanne?
Non, ma mère était originaire de l'Auvergne. C'est une Auvergnate. Et mon père était originaire du Midi.
Donc, ils sont venus à Lyon pour travailler.
Voilà, exactement.
Et vous aviez des frères et sœurs?
J'avais deux sœurs. J'avais deux sœurs. Une plus âgée et une plus jeune. Entre chacune, on avait toutes 6 ans d'écart.
Et vous êtes née en
1925.
L'école primaire, c'était comment? Vous avez des souvenirs?
Alors, j'ai été, depuis l'âge de 1 an et demi, j'ai été élevée par un oncle et une tante jusqu'à l'âge de 10 ans. J'ai été à Vichy, mais dans un milieu très bourgeois. Mon oncle était chirurgien-dentiste, et chirurgien-dentiste à cette époque, en 1925, de 1925-1930, pour vous dire, à cette époque, ben, nos dimanches, l'hiver, c'était le ski, donc vous voyez à peu près, et puis à l'automne, c'était la chasse, et l'été, c'était les vacances au bord de mer. Voilà.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez été éloigné de vos parents?
Eh bien, mes parents étaient peu fortunés. Et ils pouvaient pas avoir une location correcte. Ils étaient dans ce qu'on appelait un garni. Mmh. Donc, mon oncle et ma tante, étant aisés, et n'avaient pas d'enfants. Donc, ils avaient décidé de me prendre avec eux. Donc, ma prime enfance s'est passée à Vichy.
Voilà. Vous estimez que c'était une chance pour vous, ou plutôt un petit malheur d'être éloigné de vos parents?
Non, je pense que ça a été... Je l'ai vécu comme une chance. Parce que j'ai pu faire la différence ensuite dans les années suivantes. J'ai pu faire la différence entre un milieu bourgeois et un milieu ouvrier.
Donc, à Vichy, école primaire, quoi.
Oui, école primaire privée. Ensuite, où je ne me suis pas adaptée du tout. Alors, on m'a mis à l'école laïque après. Et là, ça allait très bien.
Et à un moment donné, on a décidé de vous rendre à vos parents en Villeurbanne.
Voilà, je suis revenue vers mes parents en 38.
38.
38.
Donc, vous n'avez rien vu de 36, là où vous étiez.
Si, même, parce que malgré tout, je revenais pendant les vacances chez mes parents. Je revenais, puis on revenait de... mon oncle et ma tante me ramenaient quand même quelquefois chez mes parents, passer le week-end. On venait pour le week-end. Parce que mon oncle était originaire de Lyon. Donc sa mère habitait Lyon, donc on pouvait venir facilement sur Lyon. Eux restaient chez la mère de mon oncle, et moi j'allais chez mes parents. Voilà.
Et juin 36, juillet 36, des souvenirs, non?
Très peu, très peu. Je me souviens qu'en juillet 36, par exemple, avec ma mère, on allait porter à manger à des grévistes qui étaient rue Flachet à Villeurbanne. Là, c'était les maisons Gillet-Taon, je crois, quelque chose comme ça. Et je me rappelle très bien de voir ces gens dans la cour de l'usine, là, il y avait les accordéons, il y avait... Enfin, voilà.
Thank you. entends-tu dans la ville siffler les fabriques et les trains? Allons au-devant de la vie, allons au-devant du matin. Debout, ma blonde, chantons au vent debout, amis. Il bat vers le soleil levant notre pays. La joie te réveille, ma blonde, allons nous unir à ce cœur. Marchons vers la gloire et le monde, marchons au-devant du bonheur. Debout, ma blonde, chantons au vent. Debout, amis. Il va vers le soleil devant notre pays. Et nous saluerons la brigade, et nous sourirons aux amis. Mettons en commun, camarades, nos joies, nos travaux, nos soucis. Debout, ma blonde, chantons au vent. Debout, amis. Il va vers le soleil, le vent notre pays. Dans leur triomphante allégresse, les jeunes s'élancent en chantant. Bientôt une nouvelle jeunesse viendra au-devant de nos rangs. Debout, ma blonde, chantons au vent. Debout, amis. Il va vers le soleil, le vent notre pays. Amis, l'univers envie, nos cœurs sont plus clairs que le jour. Allons au-devant de la vie, allons au-devant de l'amour. Debout, ma blonde, chantons au vent. Debout, amis. Il va vers le soleil, le vent notre.
Donc, à un moment donné, on décide que vous êtes assez grande
pour revenir.
Revenir avec les
voilà.
Parents. Et là, vous découvrez quoi en revenant?
Eh bien, en revenant, ben, là, mes parents, à cette époque-là, avaient une meilleure situation. Ma sœur était née, le numéro 3 était donc née. ma mère était donc concierge. Ce qu'on appelle des gardiens d'immeubles maintenant. Mmh. Mon père, qui était ingénieur électricien, travaillait à la ville de Villeurbanne, au chauffage urbain. Voilà. Alors donc là, je suis restée là.
Mais vous avez, dès ce retour, compris que vos parents étaient des personnes engagées politiquement et socialement.
Ah, tout à fait, tout à fait.
Vous aviez déjà des...
Tout à fait, parce que immédiatement, on vendait des journaux. Il y avait l'Humanité qui se vendait, et ils faisaient du porte-à-porte. Bien souvent, j'allais avec eux. Il y avait des inscriptions à l'époque. À l'époque, on faisait des inscriptions sur les murs aussi. Donc, je suivais le mouvement. Donc, je me rendais très bien compte de tout ce qui se passait.
L'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins. L'humain, un journal dans un matin de France, à Marseille, à Brest ou à Nancy, un journal sous les toits de Paris, une fille, un gars, une romance. L'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins. L'humain, un vélo dans le jour qui va naître, une belle au seuil de sa maison, un salut au fil d'une chanson, du soleil au carreau des fenêtres. L'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins. L'humain, des oiseaux près d'une source claire, des enfants qui chantent le ciel bleu, et des nids pour tous les amoureux. Le bonheur n'est pas une chimère. L'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins. L'humain.
Là-dessus arrive septembre 39, la drôle de guerre, et tout de suite vous êtes impliqué dans ce qui se passe.
Alors là, tout à fait. Tout à fait. Mon père, à l'époque, a été révoqué de son travail parce qu'on lui avait demandé, pour qu'il conserve sa place, de signer un papier comme quoi il était ni juif, ni communiste, ni franc-maçon, ce qu'il a refusé. Il a donc été révoqué de son travail, convoqué à la police. Il a passé en jugement, il était condamné aux travaux d'utilité publique. Il cassait les cailloux sur le boulevard de Ceinture. On formait à l'époque le boulevard de Ceinture, qui s'appelle maintenant Laurent Bonnevet, était en construction. Et mon père était donc là, sous la surveillance de la police, bien sûr, parce que le matin ils étaient pointés, ils repointaient le soir en sortant. Et il cassait les cailloux.
Donc là, voilà. On était à fin 39, quoi.
C'est ça, c'était en 39.
L'interdiction du Parti communiste, vous en avez un souvenir, ou ça a fait émoi chez vous,
ou... Moi, je ne peux pas dire que j'ai un souvenir très précis. Je sais, parce que mes parents... Donc, il y a eu mon père qui a perdu son travail. Donc, je savais que le Parti communiste était dissous. Je savais que le dimanche, on n'irait plus vendre les journaux, qu'il n'y aurait plus de stands sur les marchés comme il y avait à cette époque. Alors, bon, ça, bien sûr, ça, je m'en rendais quand même compte, hein, tout à fait.
Vous vous cachiez un peu pour continuer certaines activités, quand même Pas encore à ce moment-là.
Très peu à ce moment-là, très peu.
Ça a commencé quand, en fait?
Alors, moi, ça a commencé en début octobre 39. Début octobre 39. Là, j'ai commencé. En octobre 39, le syndicat CGT, et je crois que c'est en novembre que le syndicat CGT a été dissous, mais on sentait venir que la CGT allait être dissoute également. Et là où ma mère était gardienne d'immeuble, dans cette maison, une responsable du syndicat du textile habitait là. Elle s'appelait André Chapelle. Et cet André Chapelle connaissait donc les idées de mes parents, est venu me trouver, discuter avec mes parents et avec moi également, en me demandant si je pouvais les aider. Alors j'ai demandé en quoi consistait cette aide. Alors on m'a expliqué qu'ils s'attendaient à ce que la CGT soit dissoute. Ils s'attendaient donc à ce que les locaux soient perquisitionnés par la police et que la police emmène tout ce qu'il y avait dans les locaux, comme ça s'était passé pour le Parti communiste, pour les fédérations, pour les sections du parti. Et donc, si je pouvais les aider à débarrasser un peu, à planquer le matériel, en somme, qu'ils avaient dans leurs locaux, qui se trouvaient à ce moment-là au Palais du Travail à Villeurbanne. J'ai dit, ben oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Elle me dit, ben voilà, tu as un vélo, tu as une toute petite remorque derrière, ce remorque qui nous servait à aller chercher du ravitaillement. Et elle me dit, voilà, il faudrait transporter notre matériel. Une personne jeune comme toi, une gamine, on fera moins attention à ce qu'elle peut faire, à ce qu'elle peut transporter, que si c'est nous. Alors donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, ben ma foi, oui, je vais le faire. Donc pendant plusieurs jours,
des navettes.
Des navettes, voilà. Il a fallu faire les navettes du Palais du Travail. Et j'aime autant vous dire, c'était pas facile parce que fallait monter le Cours Tolstoï pour venir. Parce qu'il faut dire qu'on habitait rue du Gaz. La rue du Gaz qui s'appelle actuellement la rue Louis-Ducroise. Puisqu'un résistant a été assassiné par les Allemands à cet endroit-là. Donc la rue porte son nom.
Et vous travailliez dans cette usine à l'époque ?
Ah non, moi je ne travaillais pas, j'étais à l'école. Travaillé.
Vous étiez à l'école toujours ?
J'étais encore à l'école. Donc, les jours où je pouvais, je descendais donc, ou même le soir, je descendais donc au Palais du Travail. Un coup, j'emmenais une machine à écrire avec des rouleaux, des papiers, des stencils. Mais on avait surtout les imprimantes. Alors, les imprimantes, c'était les imprimantes à rouleaux.
Des machines à alcool.
À alcool, voilà. C'était ça. Et ma foi, j'amenais tout ce matériel à la maison. On ne le stockait pas dans les appartements de mes parents. On stockait ça dans une des caves, au numéro 8. Et ça a été très bien parce que dans cette cave, ça nous a servi d'imprimerie après. Voilà.
Nous sommes la jeunesse ardente qui veut escalader le ciel. Dans un cortège fraternel, unissons nos mains frémissantes. Sachons protéger notre pain, nous bâtirons un lendemain qui saute. En avant, jeunesse de France, faisons se lever le jour. La victoire avec nous s'avance, fils et filles de l'espérance. Nous ferons se lever le jour, à nous la joie, à nous l'amour. Comme un torrent qui se déploie, courons dans son rayon, luttons. Avec tout ce que nous gagnons, brisons la chaîne qui nous broie. Vive l'appel, la liberté, notre printemps veut un été de joie. En avant, jeunesse de France, faisons se lever le jour. La victoire avec nous s'avance, fils et filles de l'espérance. Nous ciel rayonne en nous convie à la conquête du bonheur. Avec nos 20 ans d'un seul cœur, le monde entier se lève et crie. Place, place au travail vainqueur, chantons amis, chantons en cœur la vie. En avant, jeunesse de France, faisons se lever le jour. La victoire avec nous s'avance. Fils de 93 de la commune au noir charnier et des héros de février pour que la haine enfin s'apaise sur nos champs et sur nos cités, nous vous apportons l'unité française. En avant, jeunesse de France, faisons se
les choses vont... Vous allez être davantage impliqués dans des actions, pas encore de résistance, mais de propagande, on va dire.
Surtout de propagande.
Dès mai 40 ou...
Oui, dès cette époque. Alors, dès cette époque, comme il y avait une machine à écrire, donc j'ai pu profiter de taper sur la machine à écrire des tracts. Des tracts, c'était surtout des petits papillons. Et ces petits papillons, on les tirait la nuit dans la cave avec ces machines. Alors, c'était au 8. On avait une lampe à alcool pour s'éclairer. On avait tout calfeutré avec des couvertures pour que ça fasse le moins de bruit possible. On tirait ça. Et puis, le lendemain ou les jours d'après, c'était une distribution de petits... Alors, on découpait parce que c'était des petits carrés qu'on avait, où on dénonçait la guerre, où on dénonçait, par exemple, Pétain, où on dénonçait Laval, où on dénonçait... On réclamait du pain supplémentaire, enfin, toute la propagande qui se faisait à l'époque. Et ensuite, on distribuait ça. Alors... La distribution.
Vous distribuiez vous-même aussi.
Oui, oui, mais c'était facile.
Du producteur au consommateur.
Voilà, du producteur au consommateur. Et ce qui était très amusant, c'était d'aller sur les marchés. Parce qu'on allait sur les marchés, et puis alors, très délicatement, on déposait des tracts dans les paniers des personnes qui faisaient leur marché. Elles arrivaient chez elles, elles avaient un tract ou un papillon dans le panier. Voilà, il y avait dans les boîtes aux lettres. Le soir, on essayait d'en coller sur les poteaux électriques. Enfin, voilà, c'était dans les trams. On montait dans le tram à un endroit. On en jetait un paquet par terre et on descendait à l'arrêt suivant. Puis voilà.
Vos relations avec les résistants à l'époque, c'était toujours ce réseau du
c'était
syndicat
C'était le réseau textile, du syndicat, quoi. Avec Pierrot Lachaise et puis... après, j'ai eu Aubert, quand il est revenu d'être prisonnier. Et puis donc, André Chapelle, qui, elle, je ne l'ai pas eu très longtemps parce qu'elle a été arrêtée et internée au Baumettes à Marseille. Et elle a été internée pendant presque toute la guerre.
Et vous étiez, à ce moment-là, affilié à... aux jeunesses communistes,
ah
à
non.
une organisation.
Non.
Vous faisiez...
Non, non, c'était comme ça.
C'était comme ça. Et ça,
sans
ça
aucune
allait
affecter.
Durer jusqu'en 43, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre 40 et 43.
Eh ben
vous avez
oui.
pris un travail, vous, vous êtes sortie de l'école.
Je suis sortie de l'école et j'ai pris un travail. Je travaillais dans une fabrique de fils électriques.
Et vous avez toujours continué à...
Voilà, et à des fils électriques. Et j'ai travaillé également à Irigny, chez Manurin. Là, où... Alors là, ça m'a beaucoup servi après, quand j'étais dans les jeunesses communistes.
Pourquoi?
Parce que là, j'ai fait beaucoup de connaissances. C'était une très grosse usine qui était Manurin. Ça venait du Nord et c'était installé à Irigny.
Et... C'était des munitions qu'ils fabriquaient, là, non pas
oui.
spécialement
oui.
Déjà...
Oui. C'était des machines de bombes, des douilles, des machines... Enfin, bref. Oui. Et alors là, ça a commencé, où la résistance a vraiment commencé, là.
Il y a un moment où vous vous êtes affilié à une organisation
ou... Oui, alors là, un responsable étant venu sur Lyon... un responsable des jeunesses communistes, on m'a dit, ben maintenant, tu ne seras plus avec le syndicat du textile, tu vas rentrer aux jeunesses communistes sous la direction de Maurice.
Mon grand oiseau malade, liberté, mon trois-mâts dans la vague, mon étrange balade, ma guitare désespérée, aux doigts fous des nomades, liberté. Ma sombre déchirure, liberté, mon amour sans parure, liberté. Dieu que le temps me dure, comme il ne m'a jamais duré, jusqu'à la démesure, liberté. À l'eau bleue des fontaines, liberté, sans mesurer leur peine, liberté. Les peuples font la chaîne pour te conquérir, te garder entre leurs mains qui saignent, liberté. Ma prairie sans clôture, liberté, comme un mot qu'on rature, liberté. On jette en pâture un semblant de ta vérité, où l'on te défigure, liberté. Par la force et la ruse, liberté, qu'on nous refuse, liberté. Notre patience s'use, sachez que l'heure est arrivée. Ouvrir grand les écluses, liberté.
Maurice, c'est donc Roger Pestrini.
Ça, c'était en mars 43.
Et
dans la période qui a précédé, avec vos parents, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils vous poussaient à ces actions? Ils vous retenaient?
Non, mes parents, au contraire. Au contraire, puisque mes parents étaient... C'est surtout ma mère qui était surtout impliquée dans le...
Donc, ils soutenaient votre...
Qui soutenait, oui.
Votre enthousiasme.
Tout à fait, pour, tout à fait. Tout en ayant peur, elle soutenait ce... ce que l'on faisait.
Donc, mars 43, vous allez cette fois faire une action différente, quoi, en tout cas.
Alors là, mars 43, là, je suis devenue à ce moment, c'est ce qu'on appelle agent de liaison.
Alors, hein? Qu'est-ce qu'un agent de liaison?
Alors, l'agent de liaison, c'est de transporter des directives à des groupes. Alors, vous savez que par mesure de sécurité, les groupes étaient constitués de 3 personnes. Et sur les 3, vous en connaissiez qu'une, en principe. Vous ne connaissiez pas les autres. Et vous apportiez les directives ou vous apportiez la propagande à distribuer. Hein? Voilà.
Donc, mais agent de liaison comme ça, vous deviez être... angoissé, non, de ne pas connaître dans quelle structure vous travaillez.
Écoutez, non. Moi, je pense que ceux qui disent qu'ils n'ont jamais eu peur, je pense que c'est faux. Parce que moi, autant que je me souvienne, le matin, quand on se réveillait, on disait, est-ce qu'on va se recoucher ce soir? Surtout à cette époque, puisque c'était de plus en plus difficile, les résistants étaient de plus en plus traqués. Donc,
en tant qu'agent de liaison, vous aviez des contacts avec combien de personnes? Donc, 2, celui qui vous donnait les...
Eh bien, j'avais contact d'abord avec Pestouri. Mmh. J'avais contact également avec une personne qui s'appelle Mireille, qui était une responsable également. Et en plus, après, je dispatchais à plusieurs personnes que je ne connais pas. Que je ne connaissais pas.
Les rendez-vous. C'est Roger Pestouri qui vous les donnait.
C'est Pestouri qui me donnait les rendez-vous, ou alors Mireille, qui de son vrai nom est Jackie Faïta, qui est décédée l'année dernière, là, pour Noël.
Donc, transport de tracts, d'ordre de mission. d'armes?
Je ne savais même pas ce que je transportais. Si c'était des ordres de mission, c'était très minime. Parce que bien souvent, c'était que dans la tête. On nous donnait, pas d'écrit.
C'est une consigne.
Oui. Ou alors, suivant où c'était, et suivant ce que l'importance, c'était un bout de papier qu'on planquait à quelque part. Si on était en vélo, comme tout le monde sait, c'était dans les guidons, enfin. Ou alors c'était dans les chaussettes, ou dans les chaussures, ou voilà. Suivant ce que c'était, mais autrement, beaucoup, c'était surtout dans la tête. Moi, c'était surtout dans la tête. J'ai eu transporté des valises sans savoir du tout ce qu'il y avait dedans, que je savais que j'avais à remettre à telle personne. Et il s'est trouvé plusieurs fois que les rendez-vous que j'avais ont été manqués. Ça a été manqué parce que ou il n'y avait pas la personne, ou il y avait, par exemple, il s'est trouvé, alors ça c'est beaucoup plus tard, Roger Pestouri m'avait donné un ordre, et il fallait que j'aille sur le pont de l'île Barbe. J'avais rendez-vous avec quelqu'un au pont de l'île Barbe. Donc à l'époque, il y avait le train bleu. Je prends le train bleu, j'avais rendez-vous. J'arrive vers le pont de l'île Barbe où je devais descendre. Je vois un attroupement terrible. Et je vois les gars avec les chapeaux et tout ce qui s'ensuit. Qu'on savait très bien que c'était la milice qui était là, ou la Gestapo. Quand j'ai vu ça, je ne me suis pas arrêtée, je ne suis pas descendue. Et c'est beaucoup plus tard, mais beaucoup plus tard, que j'ai appris que c'était avec Guy Dicelli que j'avais un rendez-vous.
Qui avait été arrêté.
Et Guy Dicelli qui a été fusillé, qui a été arrêté au pont de l'île Barbe. Voilà.
En fait, à chaque fois que vous aviez un rendez-vous, vous ne saviez pas si vous alliez tomber sur votre contact ou sur la milice, quoi.
Ah, mais on ne savait pas. Je ne savais pas. Par contre, je vais vous en raconter une qui est bien amusante. Quand j'étais encore avec le syndicat du textile, un jour, on me dit, tu as un rendez-vous vers Saint-Georges, pas loin de l'église de Saint-Georges. On me donne le truc de rendez-vous parce qu'on avait un code pour les rendez-vous. Je vais à ce rendez-vous avec le code qu'il fallait. J'avais un journal donc à la main. J'avais ce qu'il fallait pour pouvoir prendre contact. Et quand j'arrive à ce rendez-vous, je vois un monsieur qui avait un journal comme moi, qui avait un chapeau, qui avait des lunettes noires. Il faut vous dire qu'à cette époque, j'étais très jeune. Hein, j'avais quand même 16 ans, hein, à peine. Ce monsieur, dans mon idée, il était louche. Je pensais avoir affaire à ce qu'on appelait à l'époque un macro. Donc j'ai fait demi-tour. Et pourtant, c'était bien mon rendez-vous. Et quand je l'ai eu rencontré après, que je lui ai expliqué, ça a été le fou rire. Bien sûr, moi je l'avais pris pour un macro, j'ai dit je ne m'approche pas de ce bonhomme. Ben voilà, ça c'était mes aventures.
Thank you.
Et vous continuiez de travailler pendant toutes ces... Oui. En plus de ces activités.
Oui.
Et ça, ça a duré, ce travail d'agent de liaison, vous l'avez fait jusqu'à quelle date, en fait ?
Presque jusqu'à la libération. Enfin, jusqu'à l'insurrection de Villeurbanne. Puisque ça, là, j'ai perdu mes contacts.
Et en fait, vous aviez combien de missions par semaine ou par mois ? C'était...
Oh, ça dépendait. Il n'y avait rien de précis. Si. Il n'y avait rien de précis. Parce que, en plus, comme je vous dis, là, j'avais travaillé à Manurin. À Manurin, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de jeunes. Avec qui j'ai beaucoup discuté. Des jeunes que j'ai encouragés à partir. Et des jeunes que j'ai mis en contact avec Mireille. Donc, Jackie Faïta.
Au maquis, vous...
Oui, pour aller au maquis. Parce qu'elle, elle avait le mot de passe pour rentrer au maquis. Moi, je savais qu'il y avait le maquis de la Zergue, où il y avait le commandant Chavanet ou le commandant Caron. Mais je n'avais pas le mot de passe du maquis. Mais Mireille l'avait. Parce que Mireille était en relation avec l'état-major FTPL.
Mot de passe du maquis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'endroit où il fallait
l'endroit où il fallait se rendre. Et puis la reconnaissance. La reconnaissance.
Et vous aviez un sentiment de quel ordre en faisant ce travail ? D'isolement, de conscience de participer à une tâche où beaucoup d'autres étaient impliqués, ou comment vous le viviez, ça ?
Non. C'était un enthousiasme de la jeunesse.
C'est un combat personnel.
C'était l'enthousiasme de la... Comme je vous dis, comme je n'ai pas eu à choisir, c'était une continuité chez moi. Donc c'était pas un choix, c'était une continuité. Pour moi, tout était normal. Pour moi, tout était normal. Mais c'était très enthousiasmant.
Bien que très... relativement isolé, quoi. On ne peut pas dire que
vous aviez un grand groupe d'amis. Tout de même, parce qu'il a fallu arrêter des relations avec des copines d'école, avec des tas de gens. Bon. Mais ça, c'était, pour moi, c'était tellement... C'était normal, quoi.
Puis surtout, avoir des actions permanentes et pouvoir en parler à personne, quoi. Ça doit être frustrant, non ?
Ah ben ça, je pouvais en parler qu'avec mes parents, hein, qu'avec ma mère.
Oui.
Mais je parlais plus avec ma mère qu'avec mon père. Parce que ma mère était beaucoup plus impliquée, beaucoup plus...
Mm-hmm. La clandestinité, donc, vous êtes passé tout près, mais vous ne l'avez pas connue en tant que...
Je ne l'ai pas... Non, j'étais moins une de le connaître. Je l'ai connu pendant quelques jours lorsque Roger, c'est-à-dire Maurice Pestouri, que nous appelions le vieux, parce que pour nous c'était un vieux, et il avait toujours un chapeau sur la tête lui aussi, n'est-ce pas, c'était donc le vieux, eh bien, un jour il me dit, voilà, il faut que tu partes à Grenoble. Mais je lui dis, partir à Grenoble, pourquoi ? Il y a tout le monde qu'il faut. Il me dit, oui, mais il faut que tu remplaces tous ceux qui ont été tués.
C'était après le 11 novembre 43, ça, alors.
Oui. Ça, c'est après le 11 novembre. C'était en fin 44. C'était au mois d'août. C'était au mois d'août 44, ça.
Ah oui, donc c'est encore une autre vague.
C'est encore une autre... c'est encore autre chose. C'est au mois d'août 44, ça. Donc, il me dit, tu vas donc à Grenoble. Alors, il fallait d'abord qu'on me trouve un vélo, parce qu'il ne fallait pas que je prenne le train. Donc, j'avais une équipe de trois avec qui j'avais le contact avec un, qui s'appelait Noël, d'ailleurs, et qui a été un des plus jeunes, qui a été conseiller municipal à Villeurbanne et qui a été le plus jeune conseiller de France, d'ailleurs. Alors, j'avais contact avec Noël, et il fallait qu'il me trouve un vélo. Donc, c'était pas une petite affaire, parce que les vélos, il fallait les faucher pour pouvoir les avoir. Bon, et quand il a pu l'avoir, me voilà partie pour Grenoble. J'arrive à Grenoble le 22, je crois, le 21, 22 août. Et c'était l'époque où Grenoble s'est libérée. Donc, j'ai rien eu à faire. Mais quand Pestouri m'a dit qu'il fallait que j'aille là-bas, il m'a dit que tous les autres avaient été morts ou dans les camps. quand vous entendez ça, quand vous avez quand même 18, 19 ans, ça vous refroidit.
Et vous êtes parti quand même.
Mais je suis parti. Et je suis revenu.
Vous êtes revenu.
Et je suis revenu. Donc, je suis revenu sur Villeurbanne, donc j'avais perdu tous mes contacts. Et le nommé Noël, qui savait où j'habitais, est venu me chercher pour m'emmener au maquis de Décines, au Marais. Ce fameux maquis qui a participé au fameux combat de Pusignan. Mmh. Voilà.
Donc vous avez assisté de loin au combat de Pusignan.
Moi j'ai assisté de loin, je n'ai pas participé au combat de Pusignan. Moi j'ai assisté de loin.
Et quel regard vous portez sur cette période de votre vie ? Donc après, très vite, vous êtes à la Libération, vous avez réintégré la vie civile, vous avez continué la militance.
J'ai continué à militer. J'ai continué à militer. Et ensuite, j'ai été responsable des Jeunes Filles de France. Donc permanente, là, je suis restée permanente pendant à peu près 6 mois.
Au niveau lyonnais, Rhône-Alpes ?
Oui, au niveau lyonnais. Et ensuite, je suis rentrée à La Voix du Peuple, au journal La Voix du Peuple, où je suis restée là plusieurs années. Voilà. Bon, entre-temps, je me suis mariée, il y a eu les enfants.
Entre-temps,
et voilà.
Vous étiez devenue membre du PC à part entière.
Voilà, à part entière. À part entière, à la Libération, j'étais membre du PC.
Et avec le recul, tout ça, si c'était à refaire ?
Eh ben, on le referait.
Pareil.
On le referait. Et je dis que, bon, c'est une période terrible, parce qu'elle est semée de morts autour de nous. Mais qu'est-ce qu'elle a été riche ? Qu'est-ce qu'elle a été belle ? On avait au moins quelque chose en tête à cette époque-là. Que maintenant, la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a ? Quel espoir est là ? Nous, on avait un espoir qui est déçu maintenant, c'est sûr. Puisque tout ce que nous avions acquis nous est enlevé au fur et à mesure. Mais à cette époque, on était plein d'espoir.
Et vous avez commencé à déchanter à quel moment ? Très vite ou quand même les années d'après-guerre ?
Non, tout de même. On a gardé quand même une certaine... comment dirais-je ? On a continué à combattre pour pouvoir sauvegarder ce qu'on avait. Parce que, comme le disait d'ailleurs Lucie Aubrac, on s'est battu pour la liberté. Il faut savoir maintenant la garder. Alors...
Bien, je vous remercie.
Voilà. Eh bien, moi également. Et bonne journée.
Geneviève à Paris, Geneviève et Marie, au collège d'Angers, l'astucieuse Renée, puis Yvette et Mireille, qui était à Marseille, la catalane Francine et sa mère Joséphine, les premières. Femme de feu et de refus, femme trouvaille, femme semaille, la résistance continue. Anna, femme d'Ukraine, aplanit les problèmes qu'Henriette et Daniel d'ici nous révèle. Jeannette et Dolores fabriquent des prouesses tant à la Tuilerie qu'à la raffinerie. Ouvrières, conseillères, l'existence continue. L'inconnu dérisière, toute petite mère porte un fardeau léger au milieu des blindés, porte sans trop y croire un enfant de l'espoir comme Huguette et Marie en cet instant précis. En colère, en prière. Femme de feu et de refus, femme trouvaille, femme semaille. La résistance continue. C'est Colette et Jeannine, c'est Françoise et Martine qui vont à leur manière être des messagères, dénoncées par écrit, dénoncées dans un cri, un tas de vieux usages maintenant d'un autre âge. Ouvrière en colère, femme trouvaille, femme semaille, la résistance continue. Ma sœur, oh ma sœur Anne, petite paysanne, cachait la jaune étoile, ce n'est pas si banal, un mutisme à l'anglaise. Et les pieds dans la glaise, et la foi et le foin, parfois ça cache bien la bergère, la fermière. Femme de feu et de refus, femme trouvaille, femme semaille, la résistance continue. Et Ève des montagnes qui battait la campagne de sa jupe à grand pli, un panier bien rempli pour ceux de la colline. Elle était si maligne, vous en souvenez-vous, de ses ruses de loup. Héritière, bonne terre. Femme de feu et de refus, femme trouvaille, femme semaille, la résistance continue. D'ingéniosité, de risques appliqués sous l'allure légère que l'on dit éphémère, tant de forces cachées et de ténacité, de malice et de rire dont il faut se souvenir. Oh mes fiers, nourricière. Femme de feu et de refus, femme trouvaille, femme semaille, la résistance continue. La résistance continue. La résistance continue. La résistance continue.
Ainsi se termine cette émission consacrée à un entretien avec Madame Odile Schadbeck. Nous y avons évoqué son parcours de résistante avant, pendant et après la guerre 39-45. Vous avez successivement pu entendre les illustrations musicales suivantes. Rouge de Jean-Jacques Goldman, interprété par Frédéric Goldman-Jones. Au devant de la vie, un extrait instrumental à l'accordéon par Aliette Barthélémy, document inédit de Radio Canu, et puis la version de René-Louis Laforgue de cette chanson de Shostakovich pour la musique et de Migène et Perret pour les paroles. Ensuite, c'est Éric Amado qui interprétait la valse de Luma de Pierre Gamara sur une musique de Jean Wiener. Puis René-Louis Laforgue chantait le texte de Paul Vaillant-Couturier « Jeunesse » mis en musique par Arthur Honegger. Ensuite, c'est Isabelle Aubray qui interprétait la chanson « Liberté » sur des paroles de Jean Ferrat et une musique de Lulginiani et Morricone. Ensuite, un extrait instrumental de « Nuages », le morceau de Django Reinhardt interprété par Aimable à l'accordéon. Et puis enfin, c'est Hélène Martin qui, sur ses paroles et musiques, interprétait sa composition « Femme de feu ». Je remercie chaleureusement Madame Odile Schadbeck d'avoir bien voulu accorder à Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, et à l'intérieur de celle-ci, à l'émission Bistamplac, cet entretien exclusif qui a été enregistré au mois de juillet 2009. Bonsoir.
Son frère, son enfant, quand un humain sans femme, c'est Bistamplaque. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros guerres d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain sans flamme, c'est Bistamplaque. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en même mètre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redissent, ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les visse, mais on les claque. Thank you.
femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est bistoncle. C'est pas de la rengaine, à gavelis, passant, pas d'études que reprennent les gros guerres d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est bistoncle. Le printemps, qu'une chance qu'on les bise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les bise, mais on les claque. Oh,